Bezrat Hashem, nous allons continuer aujourd'hui notre développement, le parallèle entre la création du monde, plus précisément la création de l'homme, et le processus de délivrance de Am Israël, qui passe essentiellement par le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Je vous rappelle une règle fondamentale au niveau du messianisme. Le messianisme n'est pas religieux, le messianisme est politique. C'est-à-dire que malheureusement, les gens pensent que le messianisme est un degré religieux, alors que Melech HaMashiach est d'abord un roi. Un roi signifie des lois politiques, une monnaie, une armée, une économie, une sécurité et tout ce qui tourne autour de cela. Ça veut dire que le processus messianique est avant tout un retour des enfants d'Israël sur leur terre, comme le dit le Rambam. Et la différence entre l'époque avant le Mashiach et l'époque messianique se place sur une seule chose, sur un seul point, Sha'aboud Malchuyot Bilbad. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes soumis, assujettis aux nations ou indépendants? Donc, l'indépendance, pour le Rambam, c'est en fait la Géoula, le début de l'indépendance. Lorsque le peuple d'Israël est autonome, qu'il est souverain sur sa terre, c'est comme ça que le Rambam définit la Géoula. Et donc il va apporter un seul verset pour corroborer, pour renforcer ses dires. Et son verset est le verset qui dit que si tu es éparpillé, je te ramènerai sur ta terre. Donc le rassemblement des exilés pour le Rambam signifie la Géoula. Le début de la Géoula en tout cas, et donc nous attendons aujourd'hui la finition. Nous attendons l'étape ultime de cette Géoula, mais qui a déjà commencé. Nous sommes bien à l'intérieur de cette Géoula, en plein milieu du processus. Nous avons dit donc qu'on ne peut pas accélérer le processus du dévoilement de ce papillon, puisque toute accélération en réalité défie la notion de temps. Et donc c'est comme si on rejetait en fait le dévoilement messianique naturellement. Et c'est comme si on désirait rester dans un processus messianique qui est hors nature. Tout simplement parce que hors nature égale hors temps. Donc celui qui veut raccourcir en fait, simplifier, sauter par-dessus les étapes qui sont nécessaires pour élaborer le messianisme, c'est comme s'il disait à Kadosh Baruch Hu en d'autres termes, ça ne m'intéresse pas en fait tout le processus, moi je veux le résultat final. Donc je veux tout de suite le Mashiach, ne me fais pas passer par tout le processus qui me permet d'être associé à sa venue. C'est d'ailleurs ce que Korach a fait dans la paracha de la semaine dernière. La paracha de Korach, c'est en fait un raccourci. Korach veut faire un court-circuit, arriver immédiatement à la fin des temps, sans passer par l'étape préparatoire, sans passer par la participation du peuple d'Israël, donc compter en fait sur le miracle d'Akadosh Baruch Hu, compter sur un processus qui vient toujours du haut vers le bas, et donc sans placer des hommes ici, un petit peu plus élevé que d'autres, puisque Kol Ha'eda, Kulam Kedoshim, toute l'assemblée d'Israël est déjà dans la sainteté, comme ce sera à la fin des temps. Donc Korach, en fait, saute jusqu'à la fin des temps pour éviter, en fait, le passage qui est difficile, effectivement, car il demande une participation humaine, une association humaine au processus lui-même. Donc il compte, en fait, sur le miracle et ne voit pas la nécessité de la nature. Dans notre exemple, les scientifiques ont essayé d'accélérer l'apparition du papillon, ont eu des résultats néfastes, puisque ce sont des papillons démesurés qui sont apparus et malades en fait. Le processus ne doit pas sauter par-dessus le temps, car le temps c'est en fait la miséricorde divine qui nous laisse le temps d'agir. Pourquoi le temps c'est de la miséricorde? Parce que tout simplement le temps s'appelle Rachamim en hébreu. Rachamim qui est le pluriel de Rechem, et Rechem qui est en fait la matrice. Donc la matrice de la maman, qui s'appelle Rechem Ha'em, c'est en fait donner le temps au fœtus de se former dans son passage entre le Olam Haba et le Olam Hazeh. Entre le degré spirituel dans lequel se trouve le bébé dans le ventre de sa mère et entre le degré matériel dans lequel il sera lorsqu'il sortira dans ce monde. Apparemment, il est plus facile d'être dans ce degré spirituel du ventre, mais les Chachamim nous disent que ce temps-là n'est pas compté, puisque le temps commence à être compté à partir du moment où le bébé naît. Donc, moralité, c'est seulement lorsque le bébé arrive dans le monde de la matière qu'il commence à devenir participe, il participe lui-même, il est associé lui-même à son façonnage, à son élaboration, au fait qu'il soit grand. Donc, nous préférons un bébé qui naît, qui est dans la matière, plutôt qu'un bébé qui est nourri, qui est par un cordon ombilical. Et c'est pour ça que la nation d'Israël, lorsqu'elle arrive sur la terre d'Israël, même dans le désert, lorsqu'elle est proche de rentrer en Eretz Israël, bien, les hommes de la nouvelle génération commencent à avoir des envies qui sont très très basses. Des envies de viande, des envies de chair. Et ça peut être vécu ou vu comme quelque chose de très négatif. Or, les sages de la Kabbalah nous disent, au contraire, ça prouve que ce peuple est mature. Donc il veut voir dans la matière les plus grands degrés de l'esprit. Ils n'ont plus peur de la matière. Alors que l'époque désertique, la nation tout entière est dans un degré tellement spirituel que cette nation a peur de la matière, voire faute des explorateurs. C'est la peur de rentrer dans la matière, la peur de descendre dans un monde matériel et donc rester dans un monde spirituel où l'étude de la Torah me suffit et je suis dans une yeshiva extraordinaire avec le plus grand des rabbanim, Moshe Rabbeinu. Donc, quoi de mieux ? Bien, les sages nous disent que ce n'est pas le désir d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'est exactement le contraire. Penu us'u lachem. Voyagez, quittez ce degré du mont Sinaï, parce que je prévois pour vous quelque chose de plus bas, apparemment, mais en réalité où vous pouvez vous monter. Autrement dit, lorsque Moshe disparaît, il permet au peuple d'Israël de grandir. C'est un paradoxe. Ken? Et hineni olech, ken? La moute, quand Moshe Rabbeinu va mourir, il est écrit Vekam Ha'am Hazé. Le peuple va se lever. Mais la suite, c'est Vezana. Il va fauter, il va faire du znout. Alors vous allez me dire, mais alors, c'est pas bien que Moshe disparaisse, puisque le premier degré que le peuple rencontre après la mort de Moshe, c'est znout. Eh bien, les sages nous disent non. C'est normal, c'est tout à fait naturel que le premier degré après que Moshe disparaisse, c'est de rencontrer les difficultés de la vie. Et il ne faut pas avoir peur, ça fait partie des difficultés de la vie. Vekam ha'amazé, malgré tout, la Torah dit Vekam, c'est une élévation du peuple. Le peuple se met debout, même si dans ses premiers degrés, il va passer par un côté de Znout. Donc ne tombe pas dans le piège qui montre le premier degré de Eretz Israël comme quelque chose de négatif. Apparemment, c'est un processus normal. Le peuple va un petit peu laisser dans ses premières étapes tout ce qui est Kodesh, parce que le grand-papa surveillant, Moshe Rabbeinu, n'est plus là. Donc, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ça c'est le premier degré. Mais après, on va grandir et on va devenir un peuple qui est capable de tenir la route. La terre d'Israël, donc, nous fait rencontrer avec des degrés qui sont un petit peu difficiles, en tout cas pour ceux qui ont peur. D'ailleurs, ceux qui ont peur ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. La première rencontre avec Eretz Israël, c'est toujours des choses énormes, des géants, des choses qui sont larges, même une prostituée qui s'appelle Rahav. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en Eretz Israël, la première étape est une étape très matérielle qui peut faire peur à ceux qui n'ont pas l'habitude de voir le judaïsme comme un monde qui unit la matière à l'esprit, mais au contraire qui sépare l'esprit de la matière. Ken. Ken, ça c'est au niveau historique. Ça c'est au niveau historique. Là, j'ai dépassé un petit peu le côté de l'histoire et je joue sur les mots. cette femme qui s'appelle Rachav, donc traduction littérale, la large, elle vient prouver que, en essayant d'élargir en fait l'horizon de tes pensées, quand tu viens en Eretz Israël, tu risques de tomber dans la prostitution, entre guillemets. J'explique avec des mots simples, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça veut dire qu'avant que le peuple ne soit un véritable peuple, eh bien, c'est possible qu'il passe par des étapes qui ne sont pas très très cachées. Mais ça montre aussi qu'il s'est élargi, qu'il a élargi ses horizons. Donc il est soumis à un danger supérieur, parce que « kol agadol michavero, yitzro gadol mimeno » tout celui qui est plus grand que son ami, son yetzer, est d'autant plus grand. Donc moralité, lorsque le peuple devient grand, eh bien, son Yetzer grandit en même temps. Lorsqu'il était petit dans le désert, eh bien, ses Yetzarim étaient petits, donc il n'avait pas véritablement un désir de matérialité. Il mangeait de l'esprit. Il mangeait de la manne, il buvait de la manne, il buvait de l'eau de Myriam, ils étaient entourés de nuées, tout est spirituel. Donc ce n'est pas un peuple qui est confronté au monde difficile de la matière. Et lorsque ce peuple descend, en réalité, il monte. Vous comprenez? Donc notre Aliya, c'est en réalité une Yerida. C'est ce qu'on appelle Yerida Letzorech Aliya. C'est une descente qui en réalité prouve que tu es grand. Mais le problème, encore une fois, c'est que la première étape peut faire peur, et ceux qui ne voient pas l'image dans sa globalité voient la première étape et se disent « ça, c'est pas du messianisme ». Donc je sors du jeu, je n'adhère pas à ce système-là. Alors que c'était une étape obligatoire pour que l'enfant puisse être autonome, indépendant. Alors que la première étape, c'était de sauver un peu de son père. C'est normal que dans l'âge adolescent, les enfants renient un petit peu tout ce que le père et la mère représentent. Ils cassent un petit peu leur image pour commencer à vivre d'eux-mêmes. Alors celui qui ne comprend pas ce processus, il se dit « ça y est, j'ai raté mon éducation avec mes enfants, ils sont en train de me quitter, et ils sont en train de faire n'importe quoi ». Non, en réalité, c'est une étape nécessaire pour commencer à devenir indépendant. Donc on est obligé d'avoir cette brisure, d'avoir cette cassure. Donc la cassure fait partie en fait de notre vie, et il ne faut pas voir ça comme une cassure momentanée et séparée dans le temps, il faut voir une image globale de tout le processus. Okay. Tu poses une question qui est trop personnelle et trop individuelle. Non. Je ne parle pas de toi personnel, mais c'est trop individuel et on ne peut pas la traiter sans connaître à qui on a affaire. C'est-à-dire, si c'est une personne, je vais dire oui, si c'est une autre personne, je vais dire non. Pour la même halakha, ça dépend à qui j'ai affaire. Donc, c'est une question qui est trop dans le large. Tu comprends? Le vadaï, ça dépend de la personne. Si c'est une personne dans telle situation, qu'elle, encore une fois, la halakha n'est pas un livre. La halakha, c'est la vie. Deux personnes qui viennent pour la même question ilkhatique vont recevoir deux réponses différentes complètement. Okay? Deux personnes qui viennent chez un rav pour lui demander est-ce qu'ils peuvent manger du porc, le rav va répondre à l'un oui et à l'autre non. Parce que l'un est malade. Vous comprenez? Donc il faut savoir où se trouve cette personne-là. Donc tu ne peux pas répondre à une question telle que celle-ci. Okay? Le peuple. Le peuple. Quand le maître n'est pas là, en réalité, il laisse la place au peuple d'agir. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset « Hineni met vekam ha'am haze » C'est le « am » qui va se lever. Ça veut dire que dans des périodes de l'histoire où nous n'avons pas de dirigeants, même des dirigeants spirituels, même des rois, eh bien, le peuple devient le roi. Le peuple devient le prophète. Le peuple devient le maître. D'accord? Donc c'est une étape nécessaire, c'est très important. Donc toutes les décisions du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, ont un degré de névoie, de prophétie. C'est-à-dire, si par exemple, je vous donne des choses simples, si on appelle une guerre par son nom, aujourd'hui, eh bien c'est comme une prophétie. C'est comme si c'était Akadosh Baruch Hu qui a dit par la bouche du prophète d'appeler cette guerre Chomat Magen. Oferet Yetsuka. C'est pas des choses inventées par des hommes, c'est comme une sagesse divine, comme une prophétie qui descend dans le peuple et qui est obligatoirement ce nom-là. Pardon ? Nachon, c'est la situation idéale, mais il faut un roi. Un roi, en réalité, c'est celui qui fait, qui clôture ce regroupement, donc un royaume d'Israël, où le roi, en fait, n'est pas un individu à part entière, mais en fait l'ensemble d'Israël. Qui veut dire, en réalité, qu'il représente Akadosh Baruch Hu lui-même. Il ne représente rien de lui-même. C'est la nation, donc, Akadosh Baruch Hu. Nous attendons, en fait, un roi de cet ordre-là. Un roi du divin, sur terre. C'est ce qu'on appelle Melech HaMashiach. C'est un roi HaKodesh qui se trouve sur notre état, même si nous faisons des erreurs au niveau du Tzibour, il n'y a jamais d'erreur au niveau du Klal. Okay. Je viens de te dire juste avant, le Gush Katif, c'est une erreur de Tzibour, mais pas une erreur du Klal Israël. Donc il y a des erreurs tzibouri, et c'est pour ça qu'il y a des korban tzibouri. Il y a un korban tzibouri pour réparer des fautes du tzibouri. Tzibouri, c'est un rassemblement. C'est les rachetevot, sadikim, benonim et reshaim. Donc il y a tout. Alors que klal, pas du tout. Klal, c'est une neshama. D'accord ? Il y a une grande différence entre tzibouri Israël et klal Israël. Klal Israël est bien au-dessus, tzibouri Israël et praté Israël, les individus. Continue. Alors nous sommes arrivés aux paroles du Gaon de Vilna. Ou Kedivre Agra, donc à la sixième ligne, septième ligne, derrière. Ou Kedivre Agra. Donc nous sommes dans les paroles du Gaon de Vilna. Besof biuro al sifra de tzniuta. Le Gaon de Vilna a écrit un commentaire sur un livre de Kabbalah qui s'appelle Sifra de tzniuta. Le livre de la pudeur. Et là-bas, le Gaon de Vilna explique Beyetziata shel ha'uma ha'israélite mi beit ha'kvarot ha'gadol shel ha'galut. Lorsque la nation d'Israël sortira du grand cimetière de l'exil, donc il considère que l'exil est un grand cimetière et que la nation d'Israël va en fait ressusciter. Elle va sortir de sa mort pour revenir à la vie. Donc la terre d'Israël, en fait, est une terre de vie, Eretz Achaim, sous-entendu que cette terre répare, en fait, la notion de mort. Donc le judaïsme n'accepte pas la notion de mort. Pour le commun des mortels, la mort fait partie de la vie. Dans la Torah, c'est faux. La mort est une erreur, est une faute, est une catastrophe qui est arrivée après une faute. Et donc on ne doit pas nous complaire de cette mort, de ce degré-là, mais bien au contraire, on doit faire tout pour revenir à un degré de vie. D'ailleurs, c'est un des secrets de la Paradouma. On essaye de nettoyer l'impureté de mort, c'est-à-dire revenir à la vie. Moralité, comment est-ce qu'on revient à la vie? Première des choses pour revenir à la vie, c'est sortir de son cimetière. Sortir de son cimetière, c'est quitter l'exil. Ken Gaon de Vilna. Donc il y a, à l'âge de 20 ans, le Gaon de Vilna reçoit un Ruach HaKodesh qui lui dit « Le temps est arrivé d'envoyer tous tes élèves en Eretz Israël. Okay? » Donc il a reçu ce qu'on appelle dans la Kabbalah des Mochim de Gadlout. Il a reçu un sens prophétique très fort qui lui dit « Mon cher Rav, il ne faut plus rester ici. Dis à tes élèves vite de sortir de ce cimetière, sinon vous allez périr ici tous. » Okay. Vous allez continuer à mourir dans le sable du désert. Donc le Gaon de Vilna nous dit que l'assemblée d'Israël sort du grand cimetière de l'exil, la chouv letria. Donc pour revenir sous-entendu teshuva aussi, pas seulement revenir physiquement ou dans une direction, mais teshuva, et teshuva égale la vie. Donc la teshuva, la plus grande teshuva, c'est quoi? C'est la vie. Parce que la plus grande erreur, c'est la mort. Donc quand tu veux faire teshuva, normalement tu dois revenir à la vie. Autrement dit, si tu fais teshuva et tu es triste, c'est que ta teshuva, elle a un problème. Okay? Être sérieux dans le judaïsme, c'est être heureux. Quand on dit à quelqu'un, sois sérieux, il est obligé de faire une tête de Tisha B'Av. Okay? Le sérieux va ensemble avec la joie. Malheureusement, on a perdu un petit peu tous ces degrés-là. Si tu dis à quelqu'un, sois sérieux, le pauvre, il a peur, il devient tout sec. Okay? Sois sérieux, ça veut dire soit dans la joie de vivre, soit dans la simchat chaim. Et donc, tu dois revenir à la tria, à la vie. Okay? Quelle est la différence entre un vivant et un mort? Mais justement, c'est l'expression de son visage. Okay? Le mort, il est statique, il fait la tête. Okay? Pour ne pas dire autre chose. Et le vivant, okay, il a la capacité de sourire et il fait travailler moins de muscles, c'est-à-dire il est beaucoup plus dans la décontraction. Dans les deux sens. Okay? Tout ce qui est valable dans le monde spirituel, on a une règle dans le judaïsme. Ce qui ne marche pas dans toute la coma, c'est qu'il est faux quelque part. C'est comme un raisonnement mathématique. Si tu t'es trompé quelque part, à la fin, c'est faux. Il ne faut pas te permettre même pas une virgule, rien. Oh, quand même, c'est extrémiste. Okay? Eh bien, c'est comme ça. Okay? S'il y a un à la place d'un zéro, il marque. Le compte est foutu. Eh bien, c'est la même chose dans le judaïsme. Si quelque chose ne marche pas dans tous les domaines, c'est qu'il est faux. Donc, En Mikra Yotze Mideb Shuto, le texte simple de l'histoire, lui aussi, il est valable tel qu'il est. Mais tu dois comprendre de ce texte tout ce qui correspond à ce texte. Non seulement ça, mais il doit toucher toutes les forces, le temps, l'espace et l'homme. C'est-à-dire quelque chose qui est vrai au niveau du temps doit être vrai au niveau de l'espace et doit être vrai au niveau du temps. Exemple, Shabbat. Shabbat, ce n'est pas seulement un temps. Malheureusement, tout le monde pense que Shabbat, c'est du temps. Okay? Shabbat, c'est le jour du Shabbat. Bien non. Shabbat, ça peut être un homme et ça peut être aussi un endroit. Ah, Chidouche. Eh bien, si tu n'as pas le respect du Shabbat au niveau du temps, de l'homme et de l'espace, eh bien, tu ne fais pas Shabbat dans l'un des trois domaines. C'est-à-dire, tu peux, comment on dit, l'Ichalel, transgresser, profaner. Tu peux profaner le Shabbat au niveau terrestre. Tu ne viens pas en Eretz Israël. Donc, tu profanes le Shabbat.
Donc, si on...
Mais tu fais le Shabbat au niveau du temps, mais tu as raté le Shabbat au niveau de la terre. Et si tu n'es pas lié à un tzaddik, le tzaddik s'appelle Shabbat, eh bien c'est la même chose, il y a une profanation au niveau de l'être. Comme Rabbi Shimon dans la Gemara s'appelle Shabbat. Quand les sages, ses élèves, voyaient Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disaient Shabbat Shalom. Okay? Il y a Shabbat qui arrive. Donc tout le monde se levait. On se lève devant le Shabbat et on lui dit Boikala, Boikala. Donc c'est comme ça qu'on recevait Rabbi Shimon Bar Yochai, que les élèves le recevaient. Donc moralité, vous voyez que le Shabbat n'est pas seulement un temps, c'est aussi une terre, c'est aussi un lieu, c'est aussi un homme, et c'est beaucoup plus grand. Et si ça ne marche pas dans tous ces domaines, je reviens, je conclue, et ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Donc, le Sefer Yetzira écrit dans le Perek He que toute chose dans ce monde doit embrasser ces trois domaines, Olam, Shana, Venefesh, c'est-à-dire un temps, un lieu et un temps, et un être. Donc tout doit marcher dans tous les domaines. Donc ça répond à ta question, c'est aussi physiquement et aussi moralement. Donc la chouv l'étria, on doit revenir à la vie, be'eretz chayeha, dans le pays de sa vie. De la vie de qui? De la nation d'Israël. Puisqu'on parle de la Ouma. La Ouma, c'est le sujet. Donc la Ouma, la nation, doit revenir à la vie dans l'endroit de sa vie, dans la terre de sa vie. Et ça paraît facile et simple, okay? C'est-à-dire, où est-ce que tu peux vivre? À l'endroit qui correspond à ta vie. Apparemment, ce n'est pas très difficile à comprendre. Et pourtant, regardez la souffrance pour venir ici. Okay? Eh bien, le Gaon de Vilna, il y a le Asimon qui lui tombe. C'est-à-dire, il prend conscience à l'âge de 20 ans et il dit à ses élèves, on ne correspond pas à l'endroit auquel nous sommes, dans lequel nous sommes. Mais Matsav Bo, donc la situation est... Yesh adain sibuchim rabim, même si au moment où tu fais ce que tu es en train de faire, ce passage-là, ce retour à la vie, tu vas avoir plein de complications. C'est-à-dire, le mort qui va revivre, il ne va pas être très net au débat. Il va être un petit peu sonné, il va se lever avec des pansements, des boutons, et peut-être pas très beau à voir. Eh bien, la nation d'Israël, lorsqu'elle se réveillera de sa mort, de 2000 ans d'exil, elle aura du mal à se guérir, à guérir de sa maladie. Moumim vecholaim, donc il va rester en elle, en tout cas dans ses premières étapes de sa résurrection, des moumim. Qu'est-ce que c'est moumim? Des défauts, des plaies, des ce que vous voulez. Vecholaim et des maladies. Choli, ça vient du mot choul ou chol. C'est la même chose. Le profane ou tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël, qui en fait équivaut à une grande maladie, puisque la résurrection est une guérison. Donc, moumim vecholaim, nafshim veruchaniim, atzrichim leherape. Et ces maladies ne vont pas être seulement des maladies mentales, mais des maladies physiques et des maladies mentales et des maladies au niveau de l'être et de l'âme, on va dire. Okay? Ça veut dire qu'il va falloir travailler sérieusement pour aller chez des psychiatres au niveau de la nation et chez des psychologues et en même temps chez un médecin familial. Ça veut dire que nous allons avoir des médicaments qui vont soigner et notre corps et notre esprit à la fois. Nous sommes malades de tous ces maux, M-A-U-X. Et donc nous devons guérir de tous ces maux. Okay? Donc vous voyez que le Gaon de Vilna ne dit pas que c'est tout rose. Et donc ceux qui ne comprennent pas en fait le film au départ et qui se sauvent, qui se disent ça c'est pas la Géoula, en réalité qu'est-ce qui se passe? Ils ont quitté la salle au moment où ça sentait un peu mauvais. Dommage. Il fallait attendre un peu et ça respire. Et après tu commences à revenir à la vie. C'est-à-dire, faites attention de ne pas juger votre vie par rapport à un instant qui est un petit peu délicat ou qui vous fait mal. Il y a des gens qui sont dans un instant de la vie un petit peu déprimés, ça y est, toute la vie ne vaut rien. Et ça ne marche pas comme ça, chas v'shalom. Il faut laisser passer la vague et Be'ezrat Hashem te renforcer et grandir. Ma? Nachon? Nachon? Tout à fait. Tout à fait. Donc il faut réfléchir là-dessus et avancer. Il ne s'agit pas que la réflexion te paralyse et te tue. Il y a des gens dont le mal finit par les tuer. Et il y a des gens dont le mal finit par leur donner un moteur pour grandir. Alors de quel genre de mal tu parles? Okay. Si, chas v'shalom, après cette dépression-là, eh bien, la personne va se suicider, alors son mal n'aura servi à rien. Chas v'shalom. Il aura abouti à quelque chose d'encore pire. Mais l'angoisse peut être créatrice. Et c'est cette angoisse que la Torah nous prévoit. Une angoisse très créatrice. Parce que d'accord. Ça veut dire qu'il ne voit pas en fait l'image globale. Il voit le point dans lequel il est. C'est-à-dire d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, au contraire. Regardez ce que le Rav est en train de dire. C'est très difficile, mais attention. Attention, c'est un point. C'est un point. C'est pas l'image totale. Et sinon, tu tombes dans le piège des journalistes qui te montrent un extrait et qui font de ça l'essentiel. Et c'est-à-dire du mensonge. 90% de vérité, c'est 100% de mensonge. C'est-à-dire, malheureusement, c'est un grand métier. Aujourd'hui, ça se développe bien. Et Baruch Hashem, il y a des gens qui viennent corriger ce mal en montrant quelque chose de plus global. Ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, ce qu'il y avait pendant. Arrête de me faire des zooms et des gros plans juste sur ce qui fait mal ou ce que tu veux faire passer comme message. Donc faites attention à tout ça. Il faut être vrai et honnête dans notre dire. Et les gens qui sont un petit peu plus avec un recul et qui voient l'image globale ne tombent pas dans ces pièges-là, généralement. Donc même le désespoir est un désespoir qui doit être passager. Et il peut y avoir un paradoxe. Tu passes par une épreuve très difficile, mais tu es en train de grandir. Et l'âge de l'adolescence, c'est un âge très difficile pour les parents, mais en même temps, c'est l'âge où l'enfant grandit. Si tu ne sais pas voir ça, encore une fois, tu tombes dans la déprime du moment. Et tu te dis, mon fils, il est enfermé dans sa chambre, je ne sais plus ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Eh bien, c'est la même chose au niveau du peuple. Si tu vois le peuple dans une étape faible, tu peux te dire, ça c'est le peuple d'Israël, ça. Même le pire des je ne sais pas quoi, il est mieux que lui. Ça, c'est une fausse conclusion. Et la même chose au niveau des explorateurs. Ils ont vu en fait un gros plan sur quelque chose. Ils ont fait un zoom sur les fruits. C'est pour ça qu'ils ont amené des fruits très gros. C'était un zoom sur les fruits. Quand tu fais un zoom dans une caméra, tout le reste devient flou, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand tu zoomes sur un point, tout le reste de l'image devient flou. C'est la même chose. Donc si tu vois un point négatif, tu vas faire de lui quelque chose d'immense, tu vas le grossir, et finalement tu auras raté volontairement ou involontairement l'image globale, et tu vas tirer des conclusions néfastes et négatives comme les explorateurs concernant la terre d'Israël. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est l'étude. Okay? Quand tu sais ça, tu essayes à chaque fois que tu es dans une situation délicate de te reculer un petit peu et de voir ce que tu étais il y a 10 ans et ce que Be'ezrat Hashem tu vas devenir dans 2 ans. Okay? Et ne pas tomber dans la déprime du moment. Alors, ça c'est au niveau de la nation d'Israël. C'est comme ça que la nation d'Israël, en fait, se lève de sa mort. Se lever de la mort pour revenir à la vie, c'est pas facile. Okay? Parce que la mort, c'est un néant, c'est un vide. Et la vie, c'est un remplissage. Donc, tu passes d'une étape à une autre, ça passe par certaines perturbations qui ne sont pas faciles à vivre. Donc tu dois te guérir de tout ça. Dafka kach hu seder ha-geoula. Et donc, conclusion, d'après le Gaon de Vilna, à la fin du Sifra et Tzniuta, c'est en réalité l'ordre nécessaire de la délivrance du peuple d'Israël et du monde entier. Gam ha-reshaim ba'ale ha-mumim kamim l'itria. Ça veut dire que même les reshaim, qui sont pleins de défauts, pleins d'avaries, pleins de problèmes, eux aussi se lèvent de la mort vers la vie. Gam bahem meir or hasgula. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que même les reshaim, ils ont en eux la force de la segula, okay, la segula qui est en réalité l'essence même de la force Israël, qu'Akadosh Baruch Hu a implanté en nous. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a créés, il nous a mis un disque dur qui s'appelle segula. Segula tiuli mikol, atem tiuli segula mikol ha'amim. Vous allez être une segula. Je vous choisis avec cette carte magnétique là. Cette carte magnétique, en fait, elle est divine. Elle a placé en nous quelque chose de très divin. Au niveau individuel, c'est notre neshama, mais au niveau collectif, c'est la neshama collective qu'on appelle la Uma, le Ham. Et à l'intérieur de cette neshama est inscrit en fait tout le secret du divin, c'est-à-dire l'idéologie divine que nous, après, en tant que nation en bas, devons réaliser par notre idéologie nationale, cette idéologie divine. Faire en sorte que notre idéologie nationale soit correspondante à notre idéologie divine qui est inscrite à l'intérieur de notre être. Donc, au moment où nous vivons selon ce degré-là, par rapport à notre idéologie divine, que les deux idéologies se ressemblent et se rassemblent, eh bien, c'est la Géoula. Qu'on appelle en hébreu, d'après les paroles du Rav Kook, Ha-idea ha-elohit ve-ha-idea ha-le-umit. C'est-à-dire les hommes, pas Enoshit. Enoshit, c'est seulement humain. Les hommes, c'est la nation. Ça passe par la nation et pas seulement par l'homme individuellement parlant. Clair? Ok. Adorazé. Donc cette génération, je continue. Houdora Geoula. Nous sommes dans cette génération messianique. Dans cette génération de délivrance. Am Israël hazé shenimtsa po. Donc ce peuple d'Israël qui apparaît aujourd'hui dans le temps, donc notre génération, d'ici, im kol tachaluav, avec toutes ses maladies, avec tous ses défauts, ou doro shel Mashiach. C'est lui la génération du Mashiach. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Kadosh Baruch Hu a choisi comme ça. Vous allez dire à Kadosh Baruch Hu, tu t'es trompé? Mais c'est exactement ce que disent les gens qui refusent de voir le messianisme dans ce processus. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, excuse-nous, mais nous on a étudié à la Yeshiva que tu es en train de te planter. C'est pas comme ça qu'on fait la Géoula à Kadosh Baruch Hu, tu es bien gentil, nous on va t'apprendre. C'est exactement ça. Si tu n'acceptes pas qu'Akadosh Baruch Hu utilise ses moyens, comme il le veut, comme il pense, comme il le sait, pour faire sa Géoula, ça veut dire que tu es bien orgueilleux, tu sais mieux que lui. Et donc tu dis, cette génération n'est pas méritante, c'est pas le moment, tu commences à trouver des combines. Alors ce processus, il passe par cette nation, comme elle est, avec ses défauts. Okay? Quand vous allez vous marier avec une femme qui a des défauts. Et c'est votre femme, mais elle a des qualités aussi. Tu ne peux pas avoir tout dans des qualités, il y a des défauts. Je fais avec, ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui est sans défaut, il n'est pas humain. Baruch Hashem, nous avons des défauts, c'est pour ça que nous sommes là. Okay? On n'est pas des robots, On n'a pas été fait en plastique avec des systèmes d'ordinateurs. Nous avons quelques tâches. Les tâches, c'est joli. Ça fait partie de notre vie. Il faut aimer même ces tâches. Ken? Où y est l'ervit pater? Donc cette génération-là va aller en se développant. Il faut lui faire confiance. Comment est-ce que tu peux faire confiance à ta génération? Tout simplement parce que tu l'aimes. Si tu ne fais pas confiance à ta génération, c'est que tu ne l'aimes pas. Et de la même manière que je fais confiance à mon fils, parce que je l'aime et je lui fais confiance. Et je sais qu'il a en lui les capacités d'être quelqu'un de bien. C'est tout. Si tu lui aimais toute la journée, tu es un mauvais, tu es vilain, il n'y a rien qui va sortir de toi. Chas v'shalom, tu fais de lui un délinquant. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la nation d'Israël. Il y a des gens, chas v'shalom, qui parlent du mal de cette nation. Et il faut faire très attention et j'aimerais pas être à leur place. Okay. C'est ce que j'ai en train de dire. Le Vadaï, Nahon qui rabaisse le malheureusement, et le peuple d'Israël, et en réalité l'enfant qui sont en train d'éduquer, entre guillemets. Quand tu veux éduquer quelqu'un, il faut trouver les bons points qu'il a en lui, non? Il y a une femme qui vient de m'appeler juste avant que j'arrive maintenant, pour me dire tous les problèmes qu'elle a. Alors je lui dis, on va se rencontrer, si tu veux, la semaine prochaine, Ezrat Hashem, mais je veux que tu me fasses une liste de tous tes bons points. Elle m'a dit, comment ça? Je lui dis, pourquoi tu n'en as pas? Elle m'a dit, j'ai jamais pensé à ça. Je lui dis, pourquoi tu n'as que des défauts? Elle m'a dit, non, c'est intéressant. Je lui dis, c'est... Alors tu vas découvrir, en fait, combien tu es bien. Alors, je vais t'aider à te découvrir combien tu es bien. Alors tu vas me faire une liste de tout ce qui est bien en toi. Mais ce n'est pas de l'orgueil, pas du tout. C'est une reconnaissance. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des points bons. Eh bien, dis-lui merci pour ces points qui sont bien. Toute la journée, tu râles. Tout est mauvais. Si tout est mauvais, j'ai rien à arranger. Si tu es morte. Et si tu veux que je t'aide, moi j'ai besoin de savoir toutes les qualités qu'Akadosh Baruch Hu t'a données. Il y en a plein, je suis sûr. Ah ouais, d'accord, ah oui. Intéressant. Shalom. Mais c'est la même chose. Montrez-vous, appuyez sur vos bons points. Vous en avez, Baruch Hashem. Et la nation d'Israël, elle a des bons points. Ce matin, la tefila, il y avait un copain à moi qui avait un verre comme ça. Okay. Il y avait marqué à moitié plein. Sympa. C'est bien. Mieux qu'à moitié vide. Il y a des gens qui voient tout à moitié vide. Je préfère voir à moitié plein. Si tu vois toujours à moitié vide, t'es pas très chacham. Okay. Chacham en hébreu, c'est kos chatzi melea. C'est les initiales du mot chacham. Ça veut dire le verre à moitié plein. C'est ça, chacham. Tov. Azou yelech v'itpater. Il va aller en grandissant. Adasher gam mitoch achol. Et donc tu verras que à la fin du processus, même du chol, même du côté le plus profane, itgale à kodesh. Va apparaître le kodesh. Ça veut dire il y a un kodesh dans le chol. Saviez ça? Nous, on a l'impression qu'il y a un corps qui est bidon, qui est vide. Et il y a une neshama. Et la neshama, elle vient dans le corps. Tant qu'elle n'est pas dans le corps, c'est de la zut. Dès que la neshama, elle vient dans le corps, il se met à vivre. C'est pour ça d'ailleurs que quand la neshama sort du corps, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? On le jette à la poubelle. Ah non, on ne le jette pas à la poubelle, on l'enterre. C'est bizarre ça, on fait des tfilotes. Ça veut dire que le corps, peut-être qu'il a quelque chose. Alors, malheureusement, celui qui ne comprend pas les secrets du corps a l'impression que le corps n'est rien, n'est qu'une enveloppe, qui ne vaut rien de par lui-même. Toute sa valeur, c'est seulement quand la neshama vient dedans. Eh bien, j'ai un chidouche pour vous. Le corps lui-même a une sainteté intrinsèque, sans la neshama. Et ça, c'est le corps de la Torah d'Eretz Israël, de découvrir le flux qui est à l'intérieur même de la matière, pas de l'esprit qui est dans la matière. Un grand chiour du Rav Kook, Akdusha Sheba Teva. Lo Akdusha Shenichnesa la Teva. Sheba Teva Atzmo. D'accord? Donc, Mitoch Achol, du Chol lui-même, je dois découvrir le Kodesh. Orot Hatshuva. Perek Yudzayin Gimel. Ki Ruach HaKodesh Medaber Beknesset Israël. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. le Rav Kook nous dit qu'en réalité, le souffle divin parle de la bouche de qui? De l'Assemblée d'Israël. Autrement dit, lorsque l'Assemblée d'Israël choisit quelque chose, c'est du Ruach HaKodesh. C'est un Esprit Saint qui est descendu sur elle. Et donc, la nation d'Israël avance et décide des choses qui sont en réalité comme de l'ordre d'une prophétie. Okay. On doit fermer les yeux sur les... Non, on ne doit pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Nous ne sommes pas des aveugles. Ça, c'est la chita du soulard. La chita du soulard, c'est de regarder le vin et de tourner comme ça et de croire que le monde, okay, il est droit. Parce que tout le monde tourne en même temps. Qui ten bakos aynoit halech nesharim. Comme ça, c'est marqué. Il regarde son verre, il a l'impression qu'il marche tout droit. Alors, nous ne sommes pas des soulards. Nous devons faire face aux problèmes, mais nous ne devons pas conclure que les problèmes nous ont tués. Les problèmes font partie de notre vie, on doit les surmonter. Sheva ipol tzadik, c'est kam. Le tzadik n'est pas un soulard, il voit qu'il tombe, mais il se relève à chaque fois. Le but, c'est de se relever après être tombé. Et d'ailleurs, tu ne peux pas te lever si tu n'es pas tombé, malheureusement. En adam omed al divrei Torah, ela imken nichshal bahem. Tu ne pourras jamais comprendre un secret dans la Torah si tu ne t'es pas cassé la figure sur ce sujet-là. Ça veut dire que ta chute fait partie intégrante de ta montée. La brisure des premières tables était une partie intégrante de la réception des deuxièmes tables. Et donc Moshe les a cassées exprès. Et à Kadosh Baruch Hu lui dit « Chazak ou Baruch ». Oui ou non? J'invente des trucs ou pas? Et taluchot asher shibarta, regardez Rashi, ashrecha sheshibarta, ishar kochacha, zak shar koach. Moshe Rabbeinu t'a cassé les luchot. Pourquoi? Ben, tu permets maintenant à la nation de rassembler les morceaux. Fais un petit coup. C'est super de tomber. Mais pour se relever, attention, si tu restes dans la chute, tu es mort. Un prof est rentré en classe, les gosses ils lui ont fait un sale coup, le premier jour de l'année. Ken, il lui met un fil, il s'est coincé les pieds, il est tombé. Tous les gosses dans la classe, éclatés de rire, machin, le prof se relève, leur dit, première leçon. Dès qu'on tombe, on se relève. Ça, c'est la première leçon. C'est pas grave, vous êtes fiché de moi, vous êtes fiché de moi, vous êtes rigolé, je suis tombé, je me suis cassé la figure, mais je me suis relevé. C'est une leçon pour vous, dans votre vie. Okay? On ne doit pas rester dans des chutes, on doit monter. Donc, Am Israël ne reste pas sur des défaites, il se soigne et il monte et il grandit. C'est pour ça que les nations du monde deviennent folles, parce que nous sommes comme dans le dessin animé, on a beau nous déchirer en morceaux, on est toujours vivant. Vous avez vu les dessins animés, jamais il meurt, le personnage. Il tombe de 10 km, on l'éclate, on le coupe en morceaux, dans des scies, machin. Il se rassemble et il se reforme et il est là. Ça, c'est Am Israël. On peut nous rentrer dans des fours, on peut nous rentrer n'importe où, on est toujours là, Baruch HaShem. Pourquoi? Parce qu'on ne s'arrête jamais au niveau de notre défaite. De la défaite, on sort et on se construit. Des cendres, on se reconstruit. Comme cet oiseau qui s'appelle le phénix, l'oiseau du sable, Ofachol, qui en réalité renaît de ses cendres, et bien ça c'est Am Israël. On renaît de nos cendres, les cendres de la vacheresse. Donc nous avons un paradoxe de vie extraordinaire. C'est pour ça que c'est la paracha de la para Adouma. C'est la paracha du paradoxe. Okay. Tov. Behem Shech Hayav. Je reviens au papillon. Behem Shech Hayav. Dans la suite de sa vie, Over Azachal Chamesh Pe'amim Ta'alich Shelit Nashlut. Cette larve passe 5 processus, 5 périodes de Hit Nashlut. Qu'est-ce que Hit Nashlut? Neshel, qu'est-ce que c'est Neshel en hébreu? Pas Eshel, quel? Neshel. Vous ne savez pas, c'est un nom un petit peu compliqué, quel? Non. Neshel, c'est en fait la peau que le serpent laisse lorsqu'il change de peau. Une mue. D'accord? Donc ça s'appelle Neshel en hébreu. Donc Ta'alich Itnashlut, ça veut dire que le peuple d'Israël, il laisse sa peau 5 fois dans son histoire. Parce que le papillon laisse sa peau 5 fois. Regardez l'expression. Il a laissé sa peau. C'est pas évident. Laisser sa peau, ça veut dire laisser sa facette extérieure et garder en réalité l'essence. De la même manière que Yosef a laissé ses vêtements chez la femme de Potiphar et qui s'est sauvé. Ken Bigdo. Seulement son bégué de rester. Vayetse, Achutza. Ma, il y a fait. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire que le peuple d'Israël passe. Combien d'exils nous avons dans notre histoire? 4. On va les compter ensemble. Premier exil. Hein? Premier exil. Non, au niveau de la nation. Égypte. Hein? Égypte. On va voir si on la compte ou pas. Deuxième exil. Non, Babel. Babylone. Troisième exil. La Perse. Et la Mède. Paras Vemadai. Hein? Okay. En réalité, on va la compter comme la Perse, parce que la Mède, c'est la même chose. Okay. C'est pas au niveau de la nation. Je parle du niveau de la nation. C'est pas une nation. Non. Yaakov, c'est pas Israël. Israël, c'est Israël. Yaakov, c'est la racine, mais au niveau individuel, la preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas à Yaakov avec le nom de tétragramme. Ushmi Yud Kevavke Lonodat Ilahem. Je ne me suis pas dévoilé à eux à part mon nom. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore une nation. C'est pour ça que Moshe, en fait, il a un grand chidouche, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui apparaît pour la nation d'Israël. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov be el Shaddai. Quand j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était avec un autre nom, pas le nom essentiel de la nation. Donc le nom Yud Kevavke ne s'adresse qu'à la nation d'Israël. Ça, c'est encore un chidouche. Gardez-le. Donc, Mitzrayim, Babel, Paras, Edom et Ishmael. Okay? Ça veut dire que voilà tes 5 degrés où chaque fois on laisse un peu notre peau. Et malgré tout, nous sommes vivants. Ça veut dire que ces 4 qui sont 5 en réalité, exil, parce que l'Égypte, on ne peut pas la considérer comme un exil, c'est la matrice de tous les exils, mais peu importe, on la considère aussi. C'est comme les 4 lettres du nom de Dieu avec la pointe du Yud. Kotso shel Yud, Yud ke Vavke. Okay. Nous sommes dans la 5e, donc dans la dernière étape, et Bezrat Hashem, nous sommes en train d'en sortir. Donc nous avons de la peau. On laisse la peau, il y a beaucoup de pertes en vie humaine, il y a des morceaux de la terre d'Israël, il y a des difficultés, nous sommes en train de nous battre, okay? Nous sommes depuis 62 ans dans un état de crise. Okay? Vous savez qu'à la Knesset, une fois par an, il y a un jugement, une atzba, comment on dit une atzba? Un vote pour savoir si Israël est encore en état de crise ou pas. Okay? C'était hier soir, j'étais à la Knesset, il y avait un vote pour savoir si on était encore en crise. Donc chaque année, ça revient, il faut voter si on est en crise ou pas. Ça sert à quoi? Ça sert à gérer l'État dans une situation normale, calme, comme en Hollande, ou comme ici, en période de crise. Ça veut dire que ça fait 62 ans que c'est toujours le même vote. Ça veut dire qu'il y a une majorité qui vote, nous sommes en crise. Évident, hein? Ça veut dire qu'on gère le pays comme si on était tout le temps en guerre. On est en crise, on est en état de guerre tout le temps. Israël est en guerre depuis sa création. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et hier soir, ça a été revoté. Pour encore un an. C'est bien. On n'a pas le choix. C'est la réalité. C'est même plus une question si c'est bien ou pas. C'est comme ça. Nous avons 700 millions d'ennemis autour de nous qui veulent nous manger. C'est Batel Beshishim. Ok. Toi, tu dis qu'en réalité, on est vivant que par rapport à notre contre. C'est-à-dire, tu sens que tu es vivant que lorsque tu tapes. Tu es en contradiction. Il y a des gens qui vivent comme ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je connais des gens, tant qu'ils ne sentent pas dans la colère, dans le truc, ils ne sentent pas qu'ils vivent. Ils ont besoin. Dès que c'est trop calme, ils créent une dispute. Ah, maintenant je sens que je suis vivant. Il y a des gens comme ça. Des femmes, des hommes. Je reçois des gens, il y a des gens, je leur dis, toi tu vis que par le contre. Tu as besoin de sentir un frottement. Là, tu sens que tu vis. tant que tu n'as pas un frottement avec quelqu'un, tant que ça coule doux, tranquille, tu ne sens pas que tu vis, donc tu t'ennuies. Donc tu vas aller chez quelqu'un, tu vas le chauffer un peu, tu vas regarder, tu me dis, pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que je t'ai fait? En Israël, il n'y a pas ça, mais en France, quand tu sortais dans la rue, des mecs, tu le regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me regardes? En Israël, tu regardes, il dit, shalom, Baruch Hashem, tu me regardes. Tov, je vois que le temps est déjà passé. Alors, la Itnashlut, Hu mitpotsetz, pam achar pam. Il s'éclate, il explose, littéralement. Ce n'est pas une invention, je ne suis pas en train d'exagérer dans les mots. Cette larve, si vous la filmez, au ralenti, elle explose. Pourquoi? Merov achila. Tellement il a explosé, tellement il a grossi, et que sa peau ancienne ne le supporte plus. C'est-à-dire, il a tellement grossi que la peau éclate. Merov achila, ou même mis cet oro. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa peau en fait? Il a fait fondre avec des sucs digestifs qui sortent de sa bouche. Aliede mangenon pnimi, par des produits qu'il fabrique de l'intérieur de lui. Ou matzmiach leatzmo ochadash, et il se fabrique une nouvelle peau. Vous voyez un petit peu le parallèle avec le peuple d'Israël. On arrive à des périodes où on explose de plein de choses, et après on tombe parce qu'on était un petit peu orgueilleux. Et c'est pour ça qu'on s'est pris un petit peu dans la gueule, excusez-moi les expressions. Okay. Et après on se refabrique et on comprend, à chaque fois on fait une commission d'enquête pour savoir comment il ne faut plus retomber dans ce truc. Chaque chose chez nous c'est une étude approfondie, il y a des écoles pour tout. Okay. Ailleurs tu passes, c'est fini. Il y a eu un truc, tu passes. Non, chez nous ça dure 2-3 ans chaque petit truc. Et on a des cahiers entiers pour chaque machin. C'est bien. Très très bien, c'est le seul peuple au monde qui est tellement moral qu'il fait ce travail sur lui-même. Tikkun Amidot. Tout le temps on est en train de se réparer. C'est-à-dire jamais on va dormir sans Cheshbon Nefesh. C'est extraordinaire. Aucun peuple ne le fait. On met tout sous le tapis et on continue. Et Baruch Hashem, les autres sont bien contents parce qu'ils ont trouvé un métier, ils nous aident. Chaque fois qu'on fait un petit pas, ah, tu as tourné à droite, commission d'enquête, pas de problème. Tu tournes à gauche, la même chose. Il nous aide, Ken, il nous aide à faire un cheshbon nefesh, ça veut dire qu'on n'est jamais tranquille, on a toujours des caméras du monde entier visées sur nous, qui nous obligent à devenir le chnoun de la classe. Ken, c'est-à-dire le lejbot. C'est-à-dire l'élève, le meilleur de la classe, il faut que tu bosses comme un fou pour arriver à ce que tu dois faire, donc on ne va pas te laisser. Vous connaissez le type qui est toujours au fond de la classe, qui est toujours comme ça. Ken, quand il a un 10 sur 20, le prof il lui dit « Baruch Hashem, jusqu'à maintenant tu avais zéro ». Et celui qui est bon, il a toujours 100. Quand il a 95, le prof il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, 95, c'est bon, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suis angoissé, 95. Okay. Et bien c'est la même chose. Toda Rabba.